Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, comme dans de nombreuses villes, Manosque a connu une manifestation de solidarité pour l'Ukraine. Organisée par le Mouvement de la Paix, elle a accueilli des membres de la diaspora ukrainienne. Reportage dans ce magazine. Les Alpes de Haute-Provence ont bien résisté aux difficultés économiques en 2021, mais des inquiétudes persistent. Nous entendrons la directrice départementale des finances publiques et le président de l'Union des entreprises. L'association Digne Senior Plus propose plusieurs sports adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Le reportage de Dil Frison dans ce magazine. Assisterons un restaurant qui a du savoir-faire et qui veut le faire savoir. Chris Alessandri a rendu visite à 4 copains qui ont ouvert le canap. La société Alizé Électronique construit des bateaux à propulsion électrique. Visite guidée pour Force 7 au bord du Verdon. Ils veulent la paix en Ukraine.
Comme dans de nombreuses villes de France, une manifestation de solidarité avec l'Ukraine a eu lieu à Manosque la semaine dernière. Dans les Alpes du Sud, le Mouvement de la Paix appelait à des rassemblements dans la cité de Giono, mais aussi à Gap et Laragne. 150 Manosquins étaient unis, arborant les couleurs bleues et jaunes pour dire leur solidarité contre la guerre. Parmi ceux-ci, une dizaine de ressortissants ukrainiens et une de leurs amies de nationalité russe, venue dire leur angoisse pour leur pays et leur désapprobation de cette guerre. L'occasion pour le mouvement pacifiste et ses partenaires de réclamer l'arrêt immédiat des combats et de recourir à une solution négociée, durable et pacifique. Je vous propose d'écouter la présidente locale du mouvement de la paix, Nicole Ladevez, mais d'abord Édouard, un père de famille ukrainien qui habite Manosque depuis 15 ans. Édouard, vous êtes de nationalité ukrainienne et vous êtes présent à cette manifestation. Évidemment, qu'est-ce que vous ressentez de la part des Manosquins qui sont en accord avec vous et qui sont en solidarité avec vous?
Je suis très content que je ne suis pas tout seul ici sur cette manifestation. Je suis ukrainien et ça me fait très mal ce que maintenant la Russie attaque l'Ukraine juste pour occuper ce territoire et écraser la nationalité ukrainienne.
Vous avez de la famille en Ukraine?
Bien sûr, ma famille est restée en Ukraine et ils souffrent avec tout le monde ukrainien sous du bombardement choc fusil.
Il y a une grande mobilisation populaire en Ukraine pour résister. Quel est votre sentiment par rapport à cette mobilisation?
Je connais les chiffres que j'ai reçus directement de télé et radio ukrainienne. Bien sûr, beaucoup de gens, ils font l'opposition territoire, ça s'appelle, ou résistance territoire. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire le service militaire à cause de santé, par exemple, à cause de l'âge, à cause de problèmes familiales, ils ne peuvent pas venir directement sur la front. Ils résistent directement chacun dans son ville, dans son pays, dans son village.
Et puis vous avez un président assez atypique, qui est particulier, Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez de ce président?
Je pense qu'il est bon président. Il est très fraîche. Il a l'autre point de vue, comme les anciens présidents qui sont finalement les racines dans le parti du communiste.
Vous pensez qu'il y a une solution à ce conflit?
Tout seul, l'Ukraine n'arrive pas à faire la guerre contre l'ours russe. On espère, en espérance que le monde entier va donner un coup de main pour l'Ukraine. L'Union européenne, même les États-Unis, même l'autre pays qui ne veulent pas avoir le voisin comme ça agressif comme Russie sous de Poutine. On n'est pas contre les Russes du monde russe. C'est juste le gouvernement actuellement de Poutine qui crée cette situation.
Nicole Ladevez, vous êtes présidente du mouvement de la paix ici à Manosque. Pourquoi cette manifestation ?
Alors, cette manifestation, c'est pour montrer et dire très fort que nous sommes pour la négociation et nous ne sommes pas pour la guerre. Et il faut que négocier à tout prix pour qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et après, on discute.
Vous croyez que Vladimir Poutine peut écouter ce langage ?
Eh bien, écoutez, si on se réunit, c'est aussi pour montrer notre solidarité et montrer qu'on n'est pas pour la guerre. Donc, je pense que si dans toutes les villes de France, il y a des manifestations importantes et ça commence à être important, je pense que oui, il faut qu'on soit là pour le dire haut et fort, qu'on est contre cette guerre, qu'on veut des négociations, parce que nous, Mouvement de la Paix, on est contre l'OTAN qui est plutôt en place pour faire la guerre. Et nous, on défend l'ONU qui est là pour justement obliger de part et d'autre des discussions. Nous, notre mouvement dit, si on veut la paix, il faut avoir une culture de paix.
Ça, c'est effectivement le langage traditionnel du mouvement de la paix. Vous ne pensez pas qu'en ce moment, on est en train d'assister à une bascule de la civilisation et de la société ? Le schéma de la guerre froide se répète, mais les conditions ont beaucoup changé. On va vers une catastrophe qui risque d'être en plus très locale, très européenne.
Oui, tout à fait. Ce qui est inquiétant, c'est surtout les politiques qui actuellement, en Europe, j'ai encore entendu dans la journée des positions qui montrent qu'on a l'arme atomique. Et ça, je trouve ça profondément dangereux, très dangereux. Alors bien évidemment, contre la Russie, il y a des choses qui sont mises en place concernant des accords commerciaux, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer de négocier à tout prix. C'est ça qui est le plus important. Il faut un cessez-le-feu. Là, actuellement, il y a des Ukrainiens qui se font tuer sans arrêt, des enfants, des femmes qui n'ont rien demandé, qui veulent vivre tranquillement chez eux. Et on n'a pas besoin non plus, nous, l'Europe, de mettre de l'huile sur le feu. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Et on n'est pas à l'abri d'un accident nucléaire. Je pèse mes mots lorsque je dis un accident nucléaire.
Du mieux et des inquiétudes pour le bilan économique du 04.
Accueilli par le président de la CCI 04, Daniel Margot, à l'éco-campus de Sainte-Tulle, une réunion a permis de faire le bilan de l'année 2021 et d'esquisser les perspectives pour cette année. En tribune, les présidents de l'Union des entreprises et l'Agence de développement, ainsi que leurs homologues des trois chambres consulaires des Alpes de Haute-Provence, et à leur côté, Paul-François Chira, secrétaire général de la préfecture, Richard Mathieu pour la Banque de France et la directrice des finances publiques, Isabelle Godard de Vaujany, dont les chiffres et commentaires étaient très attendus, nous l'entendrons dans un instant. Deux éléments liés à l'actualité récente ont impacté les travaux. Le premier est dramatique, c'est la guerre en Ukraine, et le second plus positif, le retour très réussi du Salon de l'agriculture. Les échanges commerciaux avec l'Est, Russie et Ukraine sont très faibles pour le 04, mais les prix du gaz, du pétrole ou encore des céréales sont impactés par la situation et s'ajoutent à une inflation déjà élevée. Indicateur parlant, les recettes de la TVA ont augmenté de 6,1%, soit 10 millions d'euros l'an passé, en comparaison aux données cumulées 2020 et 2021. Les investissements progressent également de 14,9%, soit 6,2 millions d'euros de plus qu'en 2020. Plusieurs secteurs ont progressé, industrie 19,3%, services administratifs et de soutien, la construction également affiche plus de 18% de hausse. Hôtels, cafés et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 11,4% et les transports, eux, sont en baisse de 2,6%. Des embellis qui doivent beaucoup au fonds de solidarité, 128 millions d'euros pour près de 7000 entreprises, commerces, hébergements et restauration, ainsi que la construction. Année de la reprise en 2021, les entreprises basalpines ont plutôt bien résisté. Oui, mais, car il y a un mais. L'inflation, les difficultés d'approvisionnement ou de recrutement ajoutées au prix de l'énergie et des matières premières laissent pointer des inquiétudes que la situation en Ukraine aggrave. Extension du conflit armé, risque atomique ou cyberattaque, les scénarios ne poussent pas à l'optimisme et pourraient impacter l'activité économique. La discussion qui a suivi les exposés a permis d'afficher les ambitions des présents, mais aussi leurs regrets. Par exemple, que l'école et le monde des entreprises restent encore si éloignés ou que la valeur travail se heurte aux questions de mobilité et les opportunités du chômage. Des questions que j'évoque avec le président de l'UDE 04, Didier Long, également patron des transports Brémont, mais d'abord Isabelle Godard de Vaujany pour la DDFIP 04. Isabelle Godard de Vaujany, vous êtes la directrice des finances publiques dans le 04. Les Alpes de Haute-Provence, mais aussi la France, a souffert les gilets jaunes, le Brexit, la crise sanitaire, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et pourtant, vous êtes optimiste par rapport à la situation financière et économique.
Oui, très objectivement, les chiffres des chiffres d'affaires réalisés dans notre département sont en hausse de 10%, hein, globalement, toute activité confondue, entre 2020 et 2021. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous avons dépassé le chiffre d'affaires du département 2019, avant crise. Donc, de manière très réaliste, notre activité se porte bien. L'agriculture a maintenu son chiffre d'affaires, l'hôtellerie-restauration a retrouvé à peu près, avec bien sûr d'un établissement à l'autre, des cas particuliers, mais globalement, l'hôtellerie-restauration a retrouvé ses couleurs. Le commerce, les services, la construction, plus 18%. Donc, tous ces secteurs-là fonctionnent très bien, ont très bien fonctionné en 2021. Le bémol porte sur l'activité de transport, qui est en chute de 2%. Mais globalement, oui, l'activité dans notre département, qui est un département de petites entreprises, majoritairement, de circuits courts, fonctionne très bien.
Il y a eu un gros effort, évidemment, le plan de relance et puis la commande publique aussi qui a été un plus pour les entreprises.
La commande publique, en effet, les collectivités locales se sont un petit peu freinées dans leurs projets d'investissement pendant l'année Covid, mais petit à petit, elles reprennent leurs projets et les carnets de commandes sont importants et sont remplis.
On peut dire que la situation est passée au vert ?
La situation est passée au vert. Pendant la période où on était un peu dans le gris, les soutiens de l'État ont pleinement joué leur rôle pour soutenir, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, pour soutenir les entreprises en fragilité. Il existe toujours quelques dispositifs ciblés pour continuer à soutenir les entreprises fragiles, mais tous les indicateurs sont au vert. Cela étant, nous devons d'être très prudents parce que certains facteurs sont un petit peu, non pas préoccupants encore à ce stade, mais doivent nous alerter et nous inciter à la prudence. Je veux parler de l'inflation qui repart un petit peu. On n'est pas dans des chiffres préoccupants, mais quand même, 3%, il faut y être vigilant. Le coût des matières premières et des carburants qui, comme chacun le sait, est en forte hausse. Et puis, bien évidemment, la crise internationale avec cette guerre de la Russie et son attaque contre l'Ukraine, qui implique un peu d'incertitude, pas nécessairement sur nos débouchés, parce que nos débouchés commerciaux ne sont pas directement très importants entre Russie et Ukraine. Mais indirectement, évidemment, ça va renforcer l'incertitude. Et vous savez que l'économie n'aime pas l'incertitude et l'inquiétude. Donc, indirectement, évidemment, il y aura des conséquences. Mais moi, je suis quand même raisonnablement confiante dans notre économie. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un tissu majoritaire de petites entreprises qui ont su remarquablement s'adapter en période de crise sanitaire, qui ont revu leur modèle économique. Nous sommes aussi en circuit court. Au niveau de l'agriculture, nous sommes sur des produits de qualité et qui ont toujours bien résisté aux différentes crises qu'on a pu vivre. Donc il faut être prudent, mais raisonnablement optimiste encore maintenant.
Didier Long, vous présidez l'Union des entreprises des Alpes de Haute-Provence et évidemment votre propre entreprise souffre de la hausse de l'énergie.
Oui, effectivement, le gasoil, c'est aujourd'hui plus de 30% de part de notre chiffre d'affaires. C'est une donnée qui est colossale. Et aujourd'hui, il faut gérer avec ça, avec le brouillard dans lequel nous sommes sur l'évolution et la tendance dangereuse qu'il est en train de prendre depuis quelques temps et surtout depuis le conflit.
Avec également l'inflation qui galope.
L'inflation générale, sur tous les coûts, les problèmes d'approvisionnement, le prix des matières premières. L'entrepreneur aujourd'hui doit fonctionner donc avec tout ça, mais encore une fois, et c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui nous on a quelque part la facilité de pouvoir le répercuter en expliquant bien les choses et avec beaucoup de clarté l'obligation pour nous vitale de cette augmentation à nos clients et le client à ses clients, mais au bout du bout, au final, c'est le citoyen qui se prend cette hausse.
Du côté des entreprises, il y a toujours aussi le problème majeur de savoir je peux recruter, mais je ne trouve personne. Et donc là, c'est une question de rapport particulier avec Pôle emploi.
Rapport particulier avec Pôle emploi, oui et non, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver un coordinateur. Nous, à l'UDE, on a une personne qui est en place depuis fin janvier, qui va justement s'occuper de ça. S'occuper des employeurs, aujourd'hui, des entrepreneurs, les éduquer, leur expliquer comment ils doivent recruter, les aider à déterminer un profil par rapport à leurs besoins, mais aussi donc aller dans tous les différents dispositifs que Pôle emploi peut fournir pour trouver ces personnes qui puissent convenir donc à nos entrepreneurs. Et ça, c'est obligatoirement passé par un coordinateur. Il ne faut pas que l'on soit dans notre couloir de nage à foncer tout droit, tout seul.
Donc un nouveau service ouvert par l'UDE 04. Didier Long, il y a aussi une question particulière qui touche l'apprentissage et évidemment la place des CFA et les rapports avec l'éducation nationale. Tout ça a été évoqué pendant cette réunion.
C'est comme tout, il faut se performer par la complémentarité. Et il ne faut pas que nous soyons concurrents les uns les autres. Aujourd'hui, l'éducation nationale, ce n'est pas la question de se dire ils font mal leur job ou quoi que ce soit. C'est de se dire aujourd'hui comment on peut travailler sur de l'apprentissage, sur de la formation qui ne soit pas pratiquée à l'éducation nationale et nous la proposer sur un CFA, sur l'éco-campus ici où nous nous trouvons. Donc pourquoi pas. Mais il faut qu'on soit complémentaire et surtout pas concurrencé.
Et rendre le travail plus attractif ?
Rendre le travail plus attractif, ça c'est aussi c'est une évidence. Mais il y a tout un tas de questions, de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on n'a pas les bons messages en fait à faire passer.
Dernière question Didier Long, votre sentiment sur ce qui se passe en Ukraine actuellement ?
Je suis admiratif du peuple et du courage du peuple ukrainien. Donc aujourd'hui, face à cette situation, ça me fait réfléchir à ce que nous avons nous en France et à la chance que nous avons d'être ici aujourd'hui.
Des sports variés et adaptés pour les plus de 50 ans.
C'est ce que propose l'association Digne Senior Plus, créée en 2003. Chaque semaine, le club met en œuvre une vingtaine de séances dans des domaines très diversifiés tels que gymnastique, randonnée, tai chi, pétanque, vélo, danse, etc. Une journée portes ouvertes se tiendra jeudi 17 mars de 10h à 16h au stade Jean Rolland à Digne-les-Bains et sera clôturée par une conférence du docteur Jean Bultel sur le thème « Sport santé ». C'est à 18h, salle Perchaud. Président de Digne Senior Plus, Patrick Marc donne le programme de la journée au micro d'Odile Frison.
L'objectif, en fait, on s'adresse aux personnes de plus de 50 ans, qu'elles soient retraitées ou pas d'ailleurs, et on essaye de leur faire pratiquer des activités sportives adaptées aux personnes de plus de 50 ans. Donc on a toute une série d'activités physiques. Alors la particularité quand même de notre association et de la fédération de la retraite sportive à laquelle nous sommes donc affiliés, c'est de proposer des activités aux seniors qui sont encadrées par des seniors, qui sont des bénévoles pratiquement tous. Ce sont des bénévoles qui sont formés par la fédération et donc les activités sont encadrées par des animateurs qui sont brevetés, donc en toute sécurité. Alors les activités, on propose une vingtaine de séances par semaine dans des domaines très variés. Nous avons de la randonnée pédestre, donc de différents niveaux. Nous avons de la gym. Nous avons 6 séances de gym par semaine. Donc, il y en a un petit peu pour tous les styles. Vous avez des gens qui sont un peu plus toniques. Vous avez du pilates. Vous avez des gym douces. Enfin, chacun peut y trouver donc ce qui lui plaît. On a 3 demi-journées de pétanque. On a 2 séances de tai chi. On fait aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas randonner, on fait une séance de marche. On appelle ça de proximité. Ça veut dire qu'on reste sur le plat et on fait 2 heures de marche sur du plat environ. On fait 2 séances de marche nordique. On fait une matinée d'activité cycliste. On a une séance de country, une séance de tennis de table. Voilà, donc on va rajouter prochainement des danses folkloriques. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Le public que vous avez combien d'adhérents?
Alors, on était monté à 220 avant la pandémie. Bon, c'est un petit peu baissé avec la pandémie, mais on est quand même 187 à ce jour. Donc, vous voyez, on est une association de l'ordre de 200 adhérents. On pourrait accueillir un petit peu plus, mais on n'est pas structuré pour avoir, je dirais, plus de 250 adhérents tels qu'on est organisé actuellement, puisqu'on n'a que 13, on a 13 animateurs. Heureusement, certains animateurs exercent à la fois dans plusieurs disciplines, par exemple la marche nordique et la randonnée. Donc ça nous permet d'avoir quand même un encadrement d'une vingtaine de séances par semaine. Voilà.
Et comment ça se passe? Donc les personnes payent une adhésion à l'année et ensuite, est-ce qu'il y a une adhésion au mois pour suivant les activités physiques choisies?
Ben écoutez, non, c'est une cotisation unique à l'année. On demande 45 euros. Ça prend en compte les 27 euros de la licence et des frais de formation des animateurs. Et donc, il reste 18 euros pour le club. Donc, avec les 45 euros, la rentrée de septembre, par exemple, les personnes peuvent faire autant de séances qu'ils veulent. C'est en illimité. Je dis quelquefois, c'est comme chez Free, c'est en illimité. Il n'y a pas de supplément. Simplement, quand on fait du yoga, comme on prend un professeur de yoga, pour le yoga, on demande un supplément. Mais c'est très modique, hein. C'est de l'ordre de 4 euros par séance.
Bientôt, donc, vous allez organiser des journées portes ouvertes. C'est quelque chose que vous faites aussi chaque année?
Non, on l'a fait deux fois pour l'instant. Donc, c'est quand même quelque chose qui est lourd à organiser. Cette année, on a insisté sur l'aspect média, hein, donc on essaye de faire le plus possible de publicité, parce qu'il est difficile de faire déplacer les Dignois. Vous savez, j'avais assisté à la semaine bleue, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on met un peu le paquet là-dessus. Voilà, donc on voudrait présenter au public, en fait, une grande partie des activités qu'on propose toute l'année. Ça permettra aussi à nos adhérents qui font parfois, par exemple, simplement de la gym, de venir voir un petit peu les autres activités et pourquoi pas les inciter à en faire d'autres. Parce que vous savez, ce qui est intéressant pour les activités physiques, c'est d'essayer de les varier, hein, d'essayer d'avoir des activités qui font travailler différentes choses, l'équilibre, la force, etc., etc. Donc, ça permettra aux adhérents d'essayer peut-être d'autres activités. Et puis, ça permettra, donc, on espère, avoir beaucoup de personnes qui viendront découvrir nos activités.
Voilà. Donc, on rappelle l'endroit où va se dérouler ces journées portes ouvertes et la date.
Voilà, donc c'est le jeudi 17 mars, donc c'est bientôt. Si le temps est mauvais, on reportera au jeudi 24. La ville de Digne-les-Bains a eu la gentillesse de mettre à nos dispositions les superbes installations du site du stade Jean Roland, donc on aura toutes les installations et du matériel qui nous sera prêté par la mairie. Donc on commencera à l'ouverture au public à 10h, ça sera jusqu'à 16h, mais on fera une pause bien sûr pour un petit repas à midi. Et puis on prévoit, c'est peut-être intéressant de signaler, on prévoit de 11h30 à midi ou de midi à midi et demi, enfin aux alentours de midi, une période de regroupement, puisque chacun sera dans son coin. Donc on prévoira de se rassembler avec les invités, les participants, les animateurs pour faire un petit peu le point et puis discuter de choses et d'autres. Expliquer aux gens, aux visiteurs, d'autres renseignements.
Et la journée se termine, il y aura une conférence médicale?
Oui, alors donc pendant la journée, les ateliers, on va les faire, ce sera des ateliers assez courts, pour qu'une personne qui vient, par exemple, à 10 heures, ben, il n'y arrive pas après, si vous regardez le tai chi, on fera des séances de 20-25 minutes qu'on répétera tout au long de la journée. Alors, le soir, effectivement, nous avons la chance d'avoir dans nos adhérents le docteur Jean Bultel, qui se trouve être le médecin fédéral. C'est celui qui encadre tous les médecins de la fédération en France, de la retraite sportive. Et donc, il nous fera une conférence sur le thème sport-santé, c'est-à-dire tous les bienfaits que peuvent apporter les activités physiques adaptées aux seniors au niveau de la santé. C'est extrêmement riche parce qu'il y a des domaines extrêmement surprenants qui sont impactés par les activités physiques. Voilà, donc ce sera à 18h. Là, ce sera donc Sol Perchaud, avenue des Termes. Et on espère que Dr Jean Bultel aura beaucoup de monde parce que ces conférences sont suivies et très appréciées.
Il faut s'inscrire si on souhaite participer à ces journées portes ouvertes.
Non, on peut venir directement au stade Jean-Roland ou à la conférence à 18h. Pour la conférence, ça sera gentil d'être à l'heure parce que pas gêner le conférencier. Non, mais on peut venir dans la journée comme on veut, il n'y a pas besoin de s'inscrire. J'ai des adhérents qui me disent « Mais pourquoi on organise cette journée ?» Moi, je voulais leur répondre qu'on vieillit, il faut qu'on se renouvelle. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Vous savez, dans Digne, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui ne connaissent pas ce club. Ils ne savent pas qu'on peut, pour un prix modique, venir faire des activités physiques, rencontrer du monde. Donc, j'espère qu'on fera venir des gens qui sont isolés, de manière à ne laisser personne au bord du chemin. Si vous sentez seul, venez nous rencontrer le 17 mars.
Sisteron, le canapé des quatre potes.
L'ouverture de ce restaurant est une histoire d'amitié. Tout a commencé avec une bande de quatre copains formés il y a quelques années sur les bancs du lycée Paul Arène. Et déjà, l'idée d'ouvrir ensemble à Sisteron un lieu où l'ambiance et les spécialités du terroir seraient de mise. Et c'est ainsi que l'ancien restaurant C&C au 217 rue Droite à Sisteron est devenu le canapé. Envie de passer un bon moment de détente, de découverte, en vous régalant avec les bons produits de la région, le canapé est l'endroit parfait. Un lieu de vie et de partage où la variété et le choix sont bien représentés au menu comme à la carte. Thibaut, Clément, Thomas et Mathéo, les propriétaires du canapé, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Alors, on a racheté le fonds de commerce de ce restaurant situé dans la rue Droite à Sisteron, vraiment dans le but de créer un lieu de vie pour les Sisteronais, pour les touristes, mais aussi surtout pour les Sisteronais et les locaux. Un lieu de vie où on pourrait venir se détendre et boire un cocktail ou manger des tapas tranquillement, des produits frais, des produits locaux. Avant tout, c'est vraiment là la base du concept. Faire découvrir les petits producteurs de la région.
Pour tout ce qui est partie cuisine, on va vraiment travailler avec des petits producteurs locaux. C'est vraiment l'idée principale. Et de miser surtout sur le côté convivial avec les tapas, tout ce qui est enclin au partage. Avec des produits travaillés et des produits d'ici, des produits frais. On misera principalement sur les tapas, le côté convivial pour accompagner une boisson ou une boisson qui accompagne un repas. Mais on n'oublie pas non plus tous les travailleurs et toutes les sociétés qui cherchent un endroit où bien manger assez rapidement, mais toujours en gardant cette ligne de conduite des bons produits de chez nous.
Au niveau du bar, ce sera des jus de saison qui viendront des producteurs locaux, des distillateurs aussi pour l'alcool, et des fruits qui suivent la saison, toujours dans cette démarche locale, de garder voilà, nos locaux qui nous suivent année par année.
Le restaurant sera ouvert toute l'année, on travaillera principalement avec des produits de la région. Même sur le matériel et l'aménagement, nous travaillons au maximum avec les gens de Sisteron et aux alentours, que ce soit pour les banquettes du canapé ou la peinture, le mobilier, on travaille vraiment au maximum avec les locaux.
Le décor vous y attache énormément d'importance parce que vous tenez à bien recevoir et à ce qu'on crée une ambiance.
Exactement. En fait, on a vraiment voulu amener notre patte et nous représenter, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la convivialité. On voudrait même pouvoir mettre des petits artistes de la région ou des amis à nous en avant avec des artistes peintres, musicaux. On a une belle région avec tout ce qu'il faut, donc on va s'amuser. On va s'amuser avec ça.
Comment l'histoire a commencé? Comment vous êtes décidé à vous lancer dans cette belle aventure?
Alors, on a eu l'idée la première fois d'acheter ce restaurant, le jour où je comptais les pièces de ma tirelire dans mon jardin avec Thibaut. Et que grâce à notre cher Covid, les prix du restaurant... En fait, le restaurant était en vente depuis 2 ans déjà. Et les anciens propriétaires partaient en retraite après ça. Donc, ils essayaient de s'en débarrasser quand même. Et il y a eu le Covid qui les a frappés au bout d'un an de vente. Ils tenaient vraiment à le vendre au plus vite pour pouvoir profiter de la retraite. Et c'est vrai qu'on a eu quelque part un peu de chance que le Covid arrive à ce moment-là. Et du coup, ça décourage beaucoup les acheteurs. Et donc, le prix faisait que descendre. Et donc ce jour-là où on comptait les pièces de ma tirelire avec Thibaut, on en parlait, on s'est dit que s'il descendait en dessous de tel prix, on le tenterait.
Puis nous on est tous les quatre de Sisteron, on est des jeunes de Sisteron, j'ai travaillé dans ce restaurant pendant 4 saisons, donc je connais bien les locaux, je sais ce que les gens veulent. C'était un restaurant qui était ouvert que pendant la saison d'été, donc je sais aussi ce que les touristes ont envie, et c'est aussi ce qui nous rassemble, c'est vraiment cette convivialité, ce moment de partage, c'est ce qui nous rassemble, et c'est à endroit où on a envie de rassembler les gens, c'est au canapé, donc voilà.
Il est positionné dans un endroit stratégique, on est vraiment dans la rue droite, la partie basse de la rue droite, c'est une rue très passante, donc à mi-chemin entre la citadelle et le plan d'eau, donc c'est pour nous, c'était le lieu parfait pour créer notre lieu de convivialité. Et puis comme disait Thibaut, on est 4 Sisteronais, et l'hiver pour Sisteron, il y a quand même très peu de choses à faire, et nous on aimerait bien créer un lieu de convivialité, mais pour toute l'année, pour tout le temps, tout le monde.
Être ami dans la vie, c'est bien, mais dans le travail, est-ce que ça va pas un peu changer?
Après, ça peut se passer différemment pour tout le monde, mais nous, on se connaît depuis au moins à peu près 5 ans jusqu'à toute notre enfance. On n'a pas fait ça au hasard, on est 4 amis vraiment soudés. On a une base amicale qui fait qu'on sait s'écouter et on sait travailler ensemble aussi, dans le milieu de la restauration et dans la vie.
On a aussi fait tous les quatre nos études au lycée Paul Arène à Sisteron. On était tous les trois, Thomas, Clément et moi, on était dans la partie vraiment restauration, cuisine, service et hébergement. Donc on s'est connus là. Puis après, du coup, moi j'ai connu Mathéo à ce moment-là aussi. Et lui travaillait dans la restauration depuis un peu moins longtemps que nous, parce qu'avant il était menuisier et c'est aussi lui qui a fait une bonne partie de la devanture, des banquettes, etc. Donc voilà.
Ouais, et puis on a déjà travaillé ensemble avant ça, on se connaît depuis tellement longtemps, et puis Sisteron c'est petit, donc on s'est retrouvés finalement tous les quatre, les uns avec les autres, à travailler ensemble, donc on se connaît aussi professionnellement, on sait qu'on a la même vision des choses, que ce soit dans la vie professionnelle ou amicale.
Donc nous, on est situé au 217 rue droite basse, et on sera ouvert aux environs de fin mars, entre le 25 et le 30 mars. Ce sera toute la journée pour le repas du midi et du soir, voilà.
La navigation douce, car électrique.
L'idée paraissait folle. Voilà 30 ans, Pierre Gorius se lançait dans la conception de bateaux à propulsion électrique au bord du lac d'Esparron de Verdon dans les Alpes de Haute-Provence. Et depuis, c'est sa fille Marie qui est aux commandes de l'entreprise et affiche une belle dynamique. Des moteurs électriques dont certains sont alimentés par des panneaux solaires équipent des embarcations de 5 à 10 places maximum pour de la présence sans bruit, sans odeur et sans pollution. Idéal aussi pour des balades sur la côte afin de préserver l'environnement. Basé à Gréoux-les-Bains, Alizé Électronique produit ses barques étonnantes dans des matériaux composites tels fibres de verre ou de lin, avec un soin particulier sur le recyclage. Pareil pour les batteries, bien sûr, dont le lithium, par exemple, aujourd'hui se recycle de mieux en mieux. Récemment, le maire de la commune, Paul Audan, très impliqué dans le tourisme, et la députée Delphine Bagary, très attentive, elle, à l'environnement, ont rendu visite à Marie Gorius. Elle leur a présenté ses réalisations ainsi que le projet de déménagement d'Alizé, toujours à Gréoux, mais dans des locaux plus grands et fonctionnels. Marie Gorius, vous êtes la gérante de Alizé Électronique. Ça consiste en quoi, votre société ?
On conçoit, construit des bateaux à propulsion électrique et solaire. On en fait également la maintenance et la vente, forcément, pour un marché qui est principalement destiné aux loueurs de bateaux, mais également aux particuliers, aux plaisanciers, et qui navigue aujourd'hui aussi bien en eau intérieure qu'en côtier, donc en Méditerranée ou un petit peu en Atlantique également, toujours en restant raisonnable. C'est pas de la haute mer, mais en restant sur les ports ou en côtier très proche. On arrive aujourd'hui à avoir des bateaux qui peuvent naviguer toute la journée sur des milieux tels que les calanques de Cassis ou les îles de Porquerolles.
C'est votre père qui a créé cette société il y a déjà quelque temps, et c'était vraiment un précurseur.
Oui, complètement. Imaginez qu'en 1990, quand il a fondé l'entreprise, on arrivera à ce développement-là, mais surtout que ça pourrait fonctionner. C'était quand même un pari pris, un défi aussi. Ça n'a pas été évident. Encore une fois, là, c'est le territoire des Alpes de France qui nous a épaulés, puisque les lacs du Verdon sont un superbe et magnifique terrain de jeu pour le bateau électrique, et ça a permis le développement de l'entreprise assez facilement, finalement.
Vous pouvez nous raconter l'anecdote de la première navigation sur le lac de Sainte-Croix ?
En 90, avec le tout premier bateau, c'était un prototype, hein, c'était vraiment pas encore le bateau en série, qui a été mis à l'eau au Salles-sur-Verdon pour les premiers essais, et il y a des badauds qui sont passés à ce moment-là, qui ont trouvé l'idée sympathique et qui ont demandé à faire un tour, donc mes parents les ont installés dans le bateau, leur ont expliqué. Et au lieu de faire un tour de 10 minutes, un quart d'heure, comme on l'espérait, puisque c'était un prototype, ils sont partis pendant 4 heures sur le lac, ce qui a fait couler quelques gouttes à mes parents qui n'étaient pas trop rassurés pour finalement revenir sans encombre et qui ont apprécié le tour de bateau. Ils ont fait un retour très positif. Et de là est née une autre idée, c'est celle de louer des bateaux électriques sur les lacs du Verdon et pourquoi pas à d'autres endroits. Donc c'est vraiment une opportunité et complètement par hasard qui s'est faite. Mais encore une fois, grâce finalement à des touristes. Donc comme quoi, le lien, on a besoin de l'un l'autre. Le lien est important.
Plus de 30 ans après, eh bien, c'est une société qui se porte bien et qui se développe.
Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est deux structures finalement. On a une structure de location de bateaux électriques qui possède 3 bases et la structure de conception et de construction de bateaux électriques. On est intimement liés et extrêmement importants l'un pour l'autre. Mais effectivement, on a eu un fort développement. On continue. Le nautisme également, de toute façon, a une très belle croissance et encore plus le nautisme électrique qui est très demandé aujourd'hui.
Quelle est votre clientèle ?
C'est principalement des professionnels, un peu par dépit. On a beaucoup de demandes de la part des plaisanciers. Malheureusement, en tout cas pour mon entreprise, on a du mal à répondre à toute la demande. Les plaisanciers sont souvent un peu... passe après les loueurs qui prennent beaucoup de place et c'est un peu dommage, on aimerait pouvoir répondre encore mieux à la demande des plaisanciers. On a également une forte clientèle de pêcheurs. Forcément, pareil, il y a une grosse attractivité sur les lacs du Verdon puisque c'est des lacs très poissonneux, mais ailleurs aussi, hein, même en Méditerranée, qui nous demande aujourd'hui de plus en plus de passer à l'électrique pour aller pêcher. Donc on va vraiment sur un loisir qui est de plus en plus responsable aujourd'hui et écologique. Mais voilà, le gros de notre clientèle reste les professionnels. On a également ce que nous on appelle les entités d'État. On a EDF qui nous demandent parfois de faire des bateaux pour eux, des instituts de recherche, des organismes de sécurité, de secours. Donc petit à petit, l'électrique maille son territoire de plus en plus sur une clientèle de plus en plus diverse et variée.
Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement pour des pièces, par exemple, ou de recrutement de personnel ?
Oui. Malheureusement, depuis cette année, on a des difficultés humaines, on va dire, à recruter du personnel. C'était vraiment un paramètre qu'on ne connaissait pas avant. Ça tend, j'espère, à aller un peu mieux dans les mois qui arrivent. Je sais que malheureusement, je suis pas un cas isolé. Pourtant, sincèrement, je pense que le territoire et la commune est plus qu'attractive. Donc, heureusement, on a tous ces atouts-là qui jouent en notre faveur. Et oui, on subit de plein fouet la difficulté d'approvisionnement de matières premières. Donc après, c'est une politique à prendre. Pour ma part, en interne, il y a une politique de stock qui a été faite, qui est importante, qui du coup ne facilite pas non plus la gestion de l'entreprise, puisqu'on aura quand même un travail qui est saisonnier. Mais on sait aussi qu'on n'est pas sur une année qui va être encore très... sereine sur les approvisionnements et sur les coûts également. Donc il faut maîtriser tous les paramètres.
Alors vous l'avez dit, commune attractive, Gréoux-les-Bains. Le maire de Gréoux est à nos côtés, Paul Audan. Une société comme Alizé Électronique, c'est un fleuron dans votre commune.
Oui, d'autant que j'ai vu évoluer cette entreprise depuis de nombreuses années. Au départ dans un quartier pavillonnaire de la commune. Et puis quand nous avons créé il y a plus de 20 ans cette zone artisanale, eh bien ils ont songé à se développer rapidement et trouver une très belle place dans cette zone artisanale pour d'abord l'emploi. Effectivement, en plus Gréoux, c'est une commune touristique où il est intéressant pour nous, en plus d'avoir cette très belle entreprise dynamique, de développer et de diversifier l'offre touristique. Et donc là, je sais ô combien il est difficile quand on fait des réservations pour un bateau électrique sur le lac d'Esparron, par exemple. C'est un peu compliqué. Il faut s'y prendre assez tôt et c'est heureux. Donc, moi, je suis très, très content qu'il soit installé chez nous. Et puis, pour nos très nombreux visiteurs, parce qu'il faut savoir que l'activité touristique, thermale et touristique sur Gréoux-les-Bains pèse en activité 123 millions d'euros par an sur les 276 millions que représente notre communauté d'agglomération. Donc on va continuer à développer, je dirais, cette économie touristique et à la diversifier, et y compris diversifier l'offre thermale qui doit être aussi repensée.
On peut dire aussi qu'un bateau électrique sur le lac d'Esparron, c'est à visée familiale. Et ça, c'est important.
Oui, visée familiale. C'est vrai que ce sont les familles qui, généralement, louent ces petits bateaux. J'ai moi-même loué. Je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs, comme disait la chef d'entreprise. Non, c'est très intéressant. Et puis, c'est écologique également.
Et puis Delphine Bagary, qui est députée de la circonscription ici même, dans le Verdon, vous êtes venue en visite dans cette société. Vous la connaissiez ?
Je la connaissais de nom, mais je n'avais jamais rencontré ni Marie Gourius, ni même visité l'entreprise. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est qu'en fait, on s'est rencontrés pour la première fois cet automne en visio, parce que nous avons participé toutes les deux à une manifestation qui s'appelle Fort Industrie, qui était organisée par EDF et qui interrogeait en fait des personnes politiques et aussi des entrepreneurs de la région, et de savoir un petit peu voilà pourquoi on était là, comment on pouvait se développer et servir un petit peu d'exemple. Pourquoi ils ont choisi Alizé Électronique quand même ? Parce que Alizé Électronique non seulement fait des bateaux électriques. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, Marie l'a pas dit, mais je crois qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'il n'y en avait que 3 en France qui faisaient des bateaux électriques. Mais en plus, elle utilise des matériaux déjà recyclés, ou elle recycle complètement ses bateaux. Elle utilise aussi l'énergie solaire qu'elle met sur les ombrières, les toits des bateaux, pour pouvoir aussi recharger les batteries. Et elle fait figure un petit peu d'exemple, on va dire, pour d'autres entrepreneurs dans ce domaine-là, dans le domaine du recyclage. Et notamment, elle le dit aussi, sans surcoût. Et ça, beaucoup de concurrents ou d'entreprises peuvent se poser la question. Quand on recycle, quand on essaye d'utiliser des matériaux recyclés, il peut y avoir un surcoût. Elle démontrait que non, c'était pas le cas, mais c'était aussi une force de conviction, de pugnacité et quelque part un vrai engagement politique, du coup, dans ce sens-là et dans le sens de l'environnement. Du coup, moi, intervenant là-dedans, parce que j'étais députée de la circonscription, on m'interrogeait aussi, j'avais aussi rebondi sur la loi anti-gaspi que l'on avait votée et tout ce qui était de l'économie circulaire qui allait avec, l'abandon des plastiques aussi, etc. Et nous avons eu une petite discussion comme ça, avec des interventions aussi intéressantes d'autres chefs d'entreprise qui nous interrogeaient à distance. Et voilà comment j'ai connu ça. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir cette société, cette entreprise qui est quand même à 20 minutes de là où j'habite, qui est Ries. Et voilà comment je suis arrivée là. Et j'allais dire, et c'est pas la moindre raison, c'est que c'est une femme chef d'entreprise. C'est pas évident aujourd'hui d'être une femme chef d'entreprise et de faire son trou, on va dire, dans ce milieu qui est un milieu d'hommes, vraiment. Et on en a parlé dans le milieu du nautisme, qui reste encore un milieu d'hommes. Et pour moi, c'est aussi ce combat-là et cette exemplarité que je veux montrer, que les femmes aussi peuvent arriver à ces postes-là.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Sans problème. Merci beaucoup Olivier pour la régie. À bientôt.